Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
Il est 2h02 du matin en France, dans les nuits de l'after qui continuent jusqu'à 5h. C'est la mi-temps entre le Panama et la Croatie, 0-0 à la mi-temps. Tout à l'heure, à 4h, on aura Colombie, République démocratique du Congo, bien sûr. Et on continue les nuits de l'after avec Kevin Diaz qui est toujours là. Et là, là, on a un coach qui est très mauvais. Il a fait sortir Julien Laurence il y a 3 minutes pour le remettre aussitôt sur le terrain.
Indispensable. Thomas Tuchel. On m'a dit indispensable. On m'a dit non, il faut que tu restes.
Voilà.
Indispensable.
J'étais d'accord. Voilà. Et en fait, Julien, c'est comme Cristiano. Tu sors, non, je reste.
Ouais, ouais, reste. On voit le poids qu'il a dans le vestiaire. Il arrive à rentrer, à rester sur le terrain alors que le coach veut le faire sortir.
C'est bon, hein.
Exactement. Il veut tout jouer.
Ouais. J'ai une anecdote là-dessus.
Il veut tout jouer.
Il va se blesser.
Florent Gautreau nous rejoint. Florent, bonsoir.
Salut à tous.
Et Walid Acherchour. Salut Walid.
Salut Gilbert, salut tout le monde.
Salut messieurs.
C'est quoi ton anecdote ?
L'anecdote, c'est que vous connaissez le grand Carlos Secretario, ancien capitaine du FC Porto, international portugais, qui a joué au Real Madrid.
On le connaît pas, mais comme tu nous en parles tous les deux jours, au bout d'un moment, on commence à le connaître.
Non, mais Carlos Secretario, que tout le monde connaît quand même.
Bien sûr.
Il a joué au Real. Et donc, on était dans un match de championnat. Il est venu me voir, c'était mon coach. Il est venu me voir, il m'a dit bon, demain, je vais te mettre remplaçant. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Il m'a dit, bah si, bien sûr, en ce moment, t'es un peu moins bien, ou je sais pas, tu reviens de blessure, je sais plus exactement. Je lui dis, non, c'est mort, mais demain, il me dit, demain, je lui dis, qui va tirer les coups de pied arrêtés? Et là, il bug. Je lui dis, tu vois, c'est pour ça qu'il faut me mettre. Et le lendemain, on a gagné 1-0, but sur coup de pied arrêté. Voilà. Ça,
c'est... Ah là là, bravo. Voilà. Bravo.
Le grand Carlos Secretario qu'on salue.
Donc en fait, au travers de ton anecdote, tu voulais nous faire dire que c'était le grand Kevin Diaz qui avait.
C'est ça aussi. Et l'insolence. L'insolence aussi de dire. Non, les coachs, j'écoute pas le coach.
Quand tu veux jouer, il faut donner des arguments. D'accord, et l'argument du coup de pied arrêté, ça avait fait moi.
Ah, d'accord. Moi, je vois surtout que le message pour les Lusitanos. Les joueurs vont se dire, moi, je vais contester les décisions du coach maintenant.
Ouais, mais il faut être décisif le lendemain après.
Ah oui,
c'est sûr. C'était décisif.
C'est reparti entre le Panama et la Croatie, Valentin Jamin.
Américaine.
Avec deux changements à la pause, on rappelle 0-0, 46e minute de jeu.
On est sur une des mi-temps les plus claquées du mondial, là.
Absolument. Ah, éclaté au sol.
Trois tirs seulement. C'était
zéro cadré. Quel mondial, gars, 48.
Ouais, il y a eu un arrêt quand même de Mosquera, mais je ne sais pas si la frappe était cadrée vraiment de Baturina, en tout cas.
Alors, on a vu sur les stats 0,07 expected goals pour les deux équipes et zéro tir cadré aussi pour chacune des équipes.
Là, on est sur Angers-Toulouse, là.
Non, Angers, c'est mieux que ça.
Toulouse, je pense.
Angers, c'est mieux.
Et Kramaric sont entrés. On a sorti Gvardiol, un défenseur, et Musa, l'attaquant qu'on n'a pas vu du FC Dallas, d'ailleurs. C'était l'attaquant titulaire. Donc, un choix un peu plus offensif pour Zlatko Dalic, puisqu'on rappelle que s'il y a un perdant, il sera éliminé de la Coupe du Monde dans cette partie. C'est la poule de l'Angleterre et du Ghana. 47e minute de jeu, 0-0. On espère voir un petit peu plus de jeu, effectivement, à Toronto.
Messieurs, dames, Kevin Diaz a vu le Sénégal et il veut en parler. Ça tombe bien, nous avons un jingle Kevin Diaz.
Quelle est la différence entre un poussin et un canari?
Le canari, c'est celui du canard, non?
je connaissais pas. Alors, je connaissais pas, mais alors là, je crois que tu peux partir.
Je vais sortir.
Et oui, le canari n'est pas l'enfant du canard.
Ah, waouh.
N'est pas le petit du canard. C'est, je sais que c'est dur à entendre.
En fait, je garde mon jingle. Hein. Mais... Très bien, mon jingle de banners, là.
Je vous ferai une devinette la prochaine fois.
Bon, les Sénégalais, tu veux en parler parce que ce que tu as vu hier, t'as pas plu.
Ouais, j'étais donc j'ai vu les deux matchs hein, du Sénégal au stade. Forcément, on voit mieux les choses. Il n'y a pas uniquement l'angle de la caméra. Tu peux voir les remplacements, tu peux voir aussi les petites consignes, le leadership des uns et des autres. Et oui, il y a du leadership chez les deux cadres dont je vais parler au Sénégal. Mais même si on a tous adoré Kalidou Koulibaly et Sadio Mané, je pense que Pape Thiaw, il est un petit peu à l'image de Martinez et Cristiano Ronaldo, en train de s'enfermer dans quelque chose où c'est des joueurs qui sont plus là pour le respect qu'on doit avoir pour leur carrière, pour le statut, voire même peut-être pour leur état d'esprit et leur leadership sur, mais surtout en dehors du terrain, que pour leur prestation pure. Parce que hier, Koulibaly, il coûte quand même 2 buts à son équipe. Sadio Mané, alors il essaye de faire les efforts, mais il n'arrive plus à faire vraiment une différence en 1 contre 1. Il en a fait une, je crois, en deuxième mi-temps, au moment où il laisse passer le ballon. Bien sûr que ça reste toujours un joueur talentueux, mais je pense que pour avoir vu les deux matchs au stade, je ne sais pas ce qu'en pensent les Sénégalais, mais quand je vois l'entrée d'Illimane Ndiaye sur le premier match, quand je vois même un Ismaïl Assar ou en défense Sarr, donc l'ancien Strasbourgeois Gilbert, qui est maintenant à Chelsea, même s'il a un peu moins joué sur les 6 derniers mois, c'est quand même des joueurs qui ont du talent et il faut leur donner des minutes dans cette compétition parce que je pense que le Sénégal a besoin de fraîcheur. Il y a quand même un groupe très étoffé et du coup, je crois qu'il est en train de je mettrais Idrissa Gueye à un petit peu à moindre mesure, même si pour moi sortir Pape Gueye hier, c'est un peu sévère quand même, je trouve. Mais voilà, je pense que le Sénégal doit avancer et si certains doivent être remplacés ou doivent être mis sur le banc, peu importe ce qu'ils ont apporté, peu importe leur histoire dans le football sénégalais, je pense qu'il faut le faire à ma petite échelle.
Messieurs, est-ce que vous êtes d'accord avec Kevin Flo d'abord?
Moi, je vais laisser parler Walid sur. Je sais qu'il a un os à ronger sur Koulibaly. On a déjà parlé, donc ce qu'a dit Kevin est juste. Mais je dirais que malheureusement, il y a d'autres choses dans cette sélection. Il y a d'autres problèmes. Il y a les problèmes déjà en coulisses, donc qui expliquent aussi beaucoup de choses.
Oui,
et il y a aussi d'autres joueurs qui finalement vont passer un petit peu à travers les gouttes parce que justement, il y a les cas dont tu as parlé, les fameux statuts qui sont durs à gérer. Mais moi, malheureusement, Edouard Mendy est blessé. Mais avant, je disais que même Mendy n'est pas eu à son prime et même quand il fait des bons matchs, il y a toujours l'erreur derrière et des fautes qu'il ne faisait pas auparavant. Donc c'est une perte de qualité et de compétence. Nicolas Jackson devant, ça pique les yeux aussi et c'est incapable de conclure depuis le début. Donc si tu veux, cette histoire de Koulibaly...
Ils n'ont pas vraiment d'alternative pour Jackson.
Non mais cette histoire de Koulibaly, moi je suis entièrement d'accord et c'est un vrai souci. Et c'est, dans une sélection, ces pièges-là se referment forcément sur le sélectionneur. Mais il y a en plus les problèmes en coulisses et il y a en plus d'autres joueurs qui à mon avis sous-performent. Donc ça fait du Sénégal pour moi la grosse déception.
Bon, Badiang, c'est pas une alternative.
Ça fait une deuxième partition de grande qualité avec Lorient.
Ah ouais. Fait. Mais moi, Nicolas Jackson, par exemple, je dirais aussi pareil, totem d'immunité.
Contre la France, il a pas été mauvais, Nicolas.
Moi, je trouve pas. Je trouve qu'il, quelque part, c'est...
Il y a trop de lacunes, quand même.
Il y a beaucoup de lacunes hier. Je l'ai vu encore.
Oui, mais
dans ce cas-là, quand tu vois, on le disait hier pour des latéraux en France, comme Koundé ou Théo Hernandez, quand t'es dans des compètes comme ça, t'as que 8 matchs, il faut que tu changes, il faut que tu mettes. On a bien vu les changements à la mi-temps, dans la plupart des équipes. Bah, derrière, dans le deuxième match, tu récupères des nouveaux titulaire. Donc évidemment, hormis les cas de ces fameux gros statuts là dont tu parlais, je trouve qu'il y a beaucoup de points faibles dans cette équipe.
Non mais ce qui est incompréhensible surtout, c'est que bon, moi je parlerai de Kalidou Koulibaly dans un deuxième temps parce qu'on en parlera aussi avec Karine plus tard. Mais en fait, chez les leaders du Sénégal, c'est que hormis peut-être Gueye qui a fait un super match, enfin super première mi-temps contre l'équipe de France, c'est que là on est dans une nouvelle réalité. C'est la réalité de la Coupe du Monde où ils sont rentrés de la pire des manières parce qu'ils jouent contre la Norvège et contre l'équipe de France et tout de suite ils ont été pris dans cette compétition par cette intensité. Et moi hier, sincèrement, contre la Norvège, quand il y a eu match, parce que sur la fin de match ils essayent de revenir tant bien que mal, mais sur la première heure de jeu il y a pas photo. Sur la première mi-temps ça doit faire 3-0 Norvège et il y a rien à dire, avec, je trouve moi, techniquement des gros problèmes, des grosses lacunes sur la rencontre et des faillites individuelles. Sadio Mané, il a fait une grosse Coupe d'Afrique des Nations, donc c'est vrai que ça me paraît un petit peu bizarre de le voir à ce niveau-là, même si
c'est pas le même niveau aussi.
Exactement. C'est pas le même niveau, mais parce que la Norvège et l'équipe de France ont montré que ils avaient ce niveau-là pour leur faire très très mal. Et après, c'est surtout tout ce qui va se passer derrière, parce que Koulibaly, quand on regarde bien ce qui s'est passé sur la CAN, déjà plus on avançait dans la compétition, plus c'était compliqué, et que Mamadou Sarr l'avait remplacé contre l'Égypte notamment, et derrière sur la finale contre le Maroc où il avait été monstrueux. Et c'est vrai que ça va être intéressant pour Pape Tchio, parce que là il va falloir prendre des grosses décisions. Et ce qui est paradoxal en fait dans cette Coupe du Monde, Gilbert, c'est que le Ghana qui n'a pas fait la Coupe d'Afrique des Nations, qui est en totale perdition dans son projet de football au pays.
Il a changé de
sélectionneur on connaissait pas le 11 avant le début de la compète, va faire 16e de finale en faisant 4 points sur les deux premiers matchs. Et de l'autre côté, on a le Sénégal qui était sur une pente ascendante, qui a fait des gros résultats, qui là se retrouve dans une situation très très compliquée. Et c'est vrai qu'il y a des choix étonnants, parce que donc Mamadou Sarr ne démarre pas, on a Illiman Ndiaye qui a fait 7 minutes sur Ibrahim Mbaye qui a le feu à chaque fois qu'il rentre, qui ne démarre pas. C'est vrai que moi je trouve qu'il y a des choix un peu étonnants. Plus si on regarde ça, ce qui se passe de la sélection, les primes, pas les primes, le contrat, pas le contrat de Pape Tchio, on fait fuiter un peu dans la presse, on est finalement content que ça se fasse entre le premier et le deuxième match. Je sais pas, il y a un mood très négatif autour du Sénégal. Et moi là je dis attention, parce que si tu te qualifie pas, parce que là t'as quand même une chance, c'est que dans cette fameuse formule,
mais ils sont mal barrés.
Non,
il faut battre l'Irak, et en plus parce que là ils ont un goal average
moins 3, ils sont
ils ont un goal average qui est pas bon, donc il faut largement battre l'Irak si tu veux te qualifier.
Il faudra une victoire confortable, même si moi je reste persuadé que dans cette formule là il y aura quand même beaucoup de troisièmes à 2 points, et ça
le pour la Croatie, l'ouverture du score, 54e minute de Josep Budimir, entrée en jeu à la pause, qui vient reprendre un magnifique centre qui est venu du côté droit. Stanisic, je crois, qui a centré, qui a débordé, en tout cas il avait réussi à faire la différence grâce à son appel, le centre au deuxième poteau. Mosquera qui se rate dans sa sortie, le gardien panaméen, et c'est Budimir, le joueur d'Osasuna, 17 buts cette saison, 19 buts même cette saison, qui a maintenu le club espagnol et qui l'a fait beaucoup de bien à la Croatie. 54e minute de jeu, 1-0 pour les Croates face au Panama.
Très bien, à tout à l'heure, c'est Walid qui avait la parole.
Oui, il va falloir gagner de manière confortable contre l'Irak, et moi je trouve que si le Sénégal ne remplit pas cette tâche-là, ça envoie quand même un mauvais signal pour le continent africain, hein, parce qu'on le rappelle, mais il y a 2 mois et demi, ils gagnent au Maroc une Coupe d'Afrique des Nations sportivement, peut-être pas dans les bureaux, sûrement pas dans les bureaux, mais sportivement, c'est une équipe qui gagne la Coupe d'Afrique des Nations, et venir à la Coupe du Monde 3 mois après et ne pas réussir à gagner contre l'Irak, ce serait terrible. Déjà que contre la Norvège, moi je trouve que ça fait c'est une performance qui fait tâche. Là, sincèrement, ce serait impardonnable pour le Sénégalais. Ce serait très très décevant, et ça va être intéressant de voir ce que Pape Chou va faire, parce qu'il a sorti Koulibaly sur les 20 dernières minutes, que Edouard Mendy, qui fait partie aussi de ses leaders, moi je trouve, a fait des très beaux arrêts, mais il s'est aussi troué sur les 2 premiers matchs sur certaines situations, et il est blessé. Et quand je vois l'entrée de Morijo, je suis très très inquiet. Réaction obligatoire du Sénégal, et avec un peu plus de jeunesse, je pense, et avec un peu moins de statut qui doivent prédominer sur le terrain.
C'est là qu'on va voir si Pape Tchouaméni est un bon sélectionneur ou pas, un bon technicien ou pas, parce que c'est là qu'il faut faire ses choix maintenant. S'il te remet la même équipe avec un Sadio Mané dans ce 4-3-3 là aussi, qui à mon avis peut fonctionner parfois sur certaines configurations, mais pour moi tu dois mettre Illiman Ndiaye tous les jours dans cette équipe. C'est incompréhensible qu'il ait joué que 7 minutes comme Walid vient de le dire, et pour moi Tio, c'est maintenant vraiment qu'il va montrer de quoi il a été fait, parce que pour l'instant ça a plutôt bien marché pour lui jusqu'à maintenant. La première période contre les Bleus, elle est plutôt bonne. La deuxième période, ou en tout cas la fin de match contre la Norvège, elle est plutôt bonne aussi, parce qu'ils ont mis un peu de pression, etc. C'est maintenant que ça va compter le plus, et sincèrement je serais très déçu s'il faisait les mauvais choix.
Mais moi, je mets quand même une différence entre Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, parce qu'en fait, la gestion de Kalidou Koulibaly, elle est très très bizarre, parce qu'il faut rappeler quand même qu'avant la compétition, Malang Sarr a choisi le Sénégal. Malang Sarr, qui a fait une énorme saison avec Lens, qui est peut-être avec Nakate le défenseur le plus en forme sénégalais. Sauf que à l'époque, au micro de Mohamed Bouafsi, il y a 10 ans, hein, il avait expliqué qu'il n'irait pas pour le Sénégal, qu'il n'opterait pas pour le Sénégal. Et donc il y a eu entre guillemets un choix par défaut pour certains. En tout cas, c'est comme ça que certains l'ont exprimé au pays. Et donc par rapport au tollé sur les réseaux sociaux et même dans l'opinion générale, il l'a pas pris dans la liste.
Ouais.
Il l'a pas pris dans la liste, alors que sportivement, Malang Sarr aurait eu sa place, même titulaire, je pense, dans cette équipe. Donc déjà, ça avait créé un peu des tensions, même au sein de l'équipe, sur l'arrivée ou pas de Malang Sarr. Koulibaly, qui a une saison compliquée en Arabie Saoudite, qui a eu pas mal de pépins physiques, et donc par rapport à son statut, par rapport à la légende que c'est. Faut rappeler, hein, mais
il a joué 9 minutes avant, dans les matchs de préparation, hein, avant d'arriver ici.
Faut rappeler que Koulibaly, c'est lui qui met le but, qui qualifie le Sénégal pour le 8e de finale en 2022 contre l'Équateur. Ouais. C'est un mec, c'est un monstre. Ça a été un monstre au Napoli dans toute sa carrière. Et donc il joue par rapport à ça. Et c'est là où en fait c'est compliqué quand t'es un sélectionneur. C'est qu'est-ce que tu fais par rapport à ce que ça peut générer dans le groupe, par rapport à son leadership. Et là, clairement, sur les 2 matchs, Koulibaly sur la deuxième mi-temps contre l'équipe de France, c'est lui qui crève l'équipe. Et là, hier, il est sur tous les buts.
Et c'est difficile à gérer, hein, ces fins de carrière internationale. Là, je comprends très bien, mais il faut prendre les choix.
Il y a un truc qui est quand même qu'il faut dire sur effectivement à la fois la gestion, mais et le problème des joueurs eux-mêmes.
parce que pour avoir vécu ça plusieurs fois en équipe de France avec des générations vieillissantes, c'est vrai que ce côté, les joueurs en gros choisissent. Tu sais, quand on dit toujours c'est aux joueurs de dire si, bah non, par moment c'est pas aux joueurs de dire si. Et là, ce qu'il a fait Koulibaly, c'est qu'il a dit dans l'after, hein, c'était ça oui, quand vous y étiez à Dakar. Il avait dit voilà, moi je suis prêt et tout machin. Alors que de fait, lui-même ne peut pas dire à 100% que c'était la vérité. Il voulait jouer, il voulait y aller, il pensait pouvoir le faire peut-être, mais il devait bien sentir qu'il y avait un problème. À un moment donné, il faut bien sûr que c'est le rôle du sélectionneur, surtout maintenant que la preuve est sous ses yeux. Mais il y a aussi les joueurs eux-mêmes qui n'ont jamais cette logique-là. Je me souviens, je vous donne un exemple, Lizarazu. Lizarazu, j'ai suivi toute sa carrière, à la fois en club et en équipe de France. Je peux te dire que c'était Evra qui était le concurrent. Il a jamais voulu lâcher. Et Lizarazu, derrière, il est capable de te faire maintenant un édito très, très intelligent pour dire un peu que, bah, c'est compliqué les fins de carrière pour les joueurs. Mais à l'époque, il ne voulait pas lâcher sa place. Il n'avait plus le niveau.
Koulibaly, c'est une Desailly 2004, c'est une Thuram 2008.
C'est la compétition de trop.
J'ajoute autre chose, c'est que le Sénégal, ils sont en train de faire surtout une France 2002. C'est-à-dire qu'entre les problèmes internes, ouais. Fédé, ouais, ouais. Les joueurs blessés, les faillites sur le terrain, je n'exclus pas que même contre l'Irak, je ne vois pas se balader.
Mais ce serait très très grave.
Par rapport à ce que tu dis du goal average, là, il ne faut pas qu'ils s'imaginent en mettre 5 à l'Irak.
Oui, et puis en plus, ça peut te mettre, moi je vais faire une comparaison tennistique, mais c'est un peu comme dans le Masters de fin de saison, là où tu dois gagner qu'en 2-7 pour passer. Ça peut aussi te manger le crâne. De se dire, je dois gagner 3-0 contre l'Irak, avec une certaine frustration sur la première mi-temps si ça fonctionne pas, ou si ça marque pas tout de suite. Donc c'est vrai que ça va être une gestion très très spéciale pour le Sénégal. Mais même globalement, tu sais, j'avais écouté attentivement l'émission à Dakar, Gilbert, j'avais trouvé qu'il y avait une communication très agressive quand même.
Oui, ils étaient très très sûrs de
vrai. Ouais. Et même la veille du match ici aux États-Unis.
Moi j'avais vu notamment, je crois, Pape Thiou, c'était un joueur qui avait dit plan anti-Haaland. Non, il n'y aura pas de plan anti-Haaland. Au micro de l'after, Koulibaly qui dit on est l'une des meilleures équipes au monde, je crois. Il y a une déclaration forte comme ça en disant. Et là, je trouve que tu reviens quand même sur terre sur ces deux matchs-là parce que pour l'Afrique, c'était quand même une gâchette très importante, même si moi je mettais la Côte d'Ivoire un petit peu devant par rapport à la dynamique, mais normalement en termes de statut, par rapport à ce qu'ils ont réalisé, la densité d'équipe, la jeunesse mélangée à l'expérience, le Sénégal pour l'instant c'est une vraie faillite. Et peut-être que les têtes sénégalaises ont un peu trop grossi
dans les jours qui ont précédé la Coupe du Monde. Je dirais que la dynamique, comme tu dis, elle s'est inversée, Côte d'Ivoire et Sénégal, pour prendre ces deux exemples. Et c'est vrai que moi j'ai senti à la fois qu'il y avait beaucoup dans les discours et beaucoup moins sur le terrain côté sénégalais. Et à l'inverse, quand j'ai vu le match de prépa de la Côte d'Ivoire contre la France, et avec beaucoup moins d'esbrouf dans les déclats, mais beaucoup plus de choses sur le terrain, je pense qu'effectivement il y a une façon, une gestion d'équipe qui est bien meilleure en Côte d'Ivoire.
Les États-Unis aussi, où ils se sont fait battre en préparation. Ouais. Et moi, je pense que les langues vont se délier. Si ça se passe mal, on va en savoir beaucoup plus, je pense, sur ce qui se passe à l'intérieur du groupe et par rapport à la fédération depuis le début de la compétition. Parce que de toute façon, on connaît un petit peu, on le dit souvent, mais tu t'entraînes aussi comme t'es dirigé. Et à partir du moment où ça se passe mal dans les instances, ça peut aussi avoir un impact sur le terrain.
Dans les meilleurs troisièmes pour l'instant, Gilbert, les différences de but, c'est du 0, du moins 1, du moins 2, du moins 2 dans les 8 meilleurs troisièmes. Donc à moins 3, tu n'es pas complètement éliminé. Mais il ne faut pas non plus que, si tu gagnes 1-0, ça peut être compliqué. Si tu commences à gagner 2-0 contre l'Irak, tu pourrais être en position plutôt favorable.
Il y a deux discours.
Tu gagnes 4-0, tu es quasi sûr d'en être.
Ouais, 4-0 contre l'Irak, moi attention.
C'est pas facile.
Mais elle va jouer cette équipe irakienne parce qu'elle aussi, elle peut se qualifier.
Elle va jouer, t'as raison. Donc c'est un avantage. Mais tu vois, j'ai entendu deux communications comme ça qui me paraissent toujours un peu dangereuses. C'est Rudy Garcia sur la Belgique contre la Nouvelle-Zélande, en mode il avait déjà comptabilisé les 3 points.
Oui.
On verra.
Mais ça, c'est Rudy Garcia aussi.
Et pareil pour le Sénégal. Attention, on verra. Moi, je vois pas une victoire large du Sénégal, mais bon, je leur souhaite.
Mais ce qui est dingue, c'est que s'ils gagnent contre l'Irak et qu'ils passent en 16e de finale, ils auront peut-être un adversaire moins compliqué que la Norvège. C'est le charme ou les dérives de cette compétition. C'est le cas aussi pour l'Autriche et l'Algérie. Si l'Algérie termine troisième, l'Autriche joue l'Espagne en étant deuxième, et l'Algérie peut avoir les USA, le Canada ou le Mexique. Donc c'est ça qui est dingue, c'est que le Sénégal, s'ils s'en sortent, il y a aussi la possibilité d'avoir, je vais pas dire un 16e abordable, mais un 16e où ils vont pas rencontrer les quatre favoris à la gagne dans deux semaines.
Voilà pour le Sénégal. On va parler de l'Algérie dans quelques instants, mais d'abord un détour par Boston, Panama, Croatie. C'est pas du tout à Boston, d'ailleurs.
Toronto.
C'est à Toronto.
Toronto. Ouais.
Valentin.
64e minute de jeu et donc 1-0 pour la Croatie. Boudimir, le buteur, il est entré à la mi-temps, mais là ils ont mangé un énorme 2 contre 1 les Croates avec récupération haute de Modric qui lance Pasalic. Il a toute la moitié de terrain panaméenne pour lui. Il accélère sur la gauche et au lieu de faire la passe à Baturina qui est dans la surface, il tente le petit piqué arrêté par Mosquera. Mais c'était une très grosse balle de 2-0. Pour l'instant, la Croatie est donc toujours devant. 64e minute de jeu. On rappelle que si on en reste là, le Panama sera éliminé de la compétition. En 64 minutes, 1-0 pour la Croatie.
Pasalic, dont personne ne se souvient de son passage à Monaco.
Si,
t'en souviens, toi?
Si, je m'en souviens, ouais.
Bon.
Ça, c'est il y a deux passages d'ailleurs.
C'est pas rentré dans la légende.
Non, après, bien évidemment, c'est pas Bernardo Silva à Monaco, quoi.
L'Algérie, dans quelques instants, dans la nuit de l'after, qui est là jusqu'à 5h du matin. On se retrouve tout de suite.
RMC, l'after foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Il est 2h24 du matin, messieurs dames en France. Si vous suivez les nuits de l'after, il est 20h24 ici dans le studio new-yorkais de l'After Foot. Walid Acherchour est là, Kevin Diaz est là, Julien Laurence est là et Florent Gautreau. Il s'est rien passé, Valentin, entre le Panama et la Croatie?
Non, par contre, très bonne remarque de Julien qui a dit il y a deux Pasalic. Effectivement, celui qui a croqué l'action, c'est Marco Pasalic qui joue à Orlando et Mario Pasalic qui est resté sur le banc et qui joue à la.
Ah, c'est pas le même, c'est ça, mais vous m'écoutez pas. Donc,
voilà, on nous aurait menti.
Qu'est-ce que c'est insupportable ce qu'il a fait d'arriver comme ça
Ah, c'est horrible.
Moi, je suis croqué là, je le brûle. Hein.
Ah, le pire, c'est que le Pasalic en question, c'est un barbu. Je me suis dit, c'est vraiment Pasalic. Je suis allé vérifier, je tape Pasalic et voilà, je me suis fait avoir.
Juste un truc sur l'action, outre le 1 contre 1 raté, moi, ce qui me tue derrière, c'est qu'il peut. Pour sauver son truc, mettre une balle passe entrée au lieu de chercher le truc sans angle.
Ah, il frappe petit filet, catastrophe.
Catastrophe en force, alors qu'il a un mec.
Je te jure, je le sors direct. Moi, je suis l'entraîneur, je le sors tout de suite. Il vient de rentrer, je le sors direct.
67e 1-0 pour la Croatie.
Très bien. Le Panama qui est pas nulissime. Hein,
non, non. La première mi-temps, elle est pas déconnante.
Ça joue, je t'ai dit, ça bouge le ballon plutôt bien. Ouais.
Ça bouge le ballon.
Non, parce que c'est move the ball en anglais, c'est pour ça. Et des fois, je fais la traduction dans ma tête et voilà. Ça...
Parce que dit comme ça, tu dis, ouh, ça bouge
le ballon. En revanche, je sais pas s'ils ont du bon, mais le coach décide de faire aucun changement. 66e minute, moi, quand j'ai 5 changements, j'essaie de changer un truc. Tu vois, là, le coach croate, l'entrée de Boudimir, quand même, a fait pas mal.
Personne à faire rentrer, c'est ce que tu veux dire.
C'est un petit peu.
Il y a Escobar sur le banc. Peut-être te trouver un petit rail pour la victoire.
Il y a vraiment Escobar sur le banc?
Ouais.
Il y a Escobar sur le banc.
L'Algérie. Il y a Farina et Escobar. D'ailleurs, à mon avis, ça va.
Ah, Franck Farina.
Ils vont allonger la ligne.
Grand numéro 9 du Racing Club de Strasbourg.
Franck Farina, Australie. Australie.
Sélectionneur de l'Australie un peu plus tard.
Bien sûr.
Exactement. L'Algérie, c'était hier matin en France très tôt, match à 5h du matin, nous on venait de rendre l'antenne à la matinale, on a regardé le match hein, évidemment, mais sans pouvoir vraiment donner notre avis au final depuis. L'Algérie a été menée 1-0 par la Jordanie, a finalement réussi à renverser le match pour gagner. Est-ce que c'est le début de quelque chose?
Est-ce que je peux faire une petite fausse ouverture sur ce match?
Bien sûr.
Pour mon ami Walid.
Ouais.
J'ai tellement pensé à lui hier. D'abord, j'étais content dans la deuxième période. Je me suis dit qu'on était quelques étages de différence, mais je souffrais pour lui. J'ai failli faire un petit message, puis j'ai dit il va être tellement énervé qu'il va m'envoyer chier à la mi-temps. Parce que sur le but de la Jordanie.
Apparemment, il y avait un autre problème à gérer. Ah, la livraison de dîner.
Il était pas content.
Ce qui m'est arrivé hier, faut que je raconte l'anecdote parce que.
Attends, je finis la mienne.
T'es encore commandé au mauvais endroit?
Non, c'est autre chose.
Attends, je finis juste la mienne parce que tu n'es pas sans avoir remarqué que sur le but de la Jordanie, je te conseille quand même la reprise de l'attaquant avant qu'il y ait le but.
Oui,
le gros raté d'Altamari.
Du joueur technique que Walid nous a vendu toute la saison. Voilà.
J'étais avec Walid pour le match et avant de le laisser parler.
Alors
et écoute, je l'ai trouvé quand même calme. Il était plutôt calme, même si il disait des trucs du genre oh, mais là c'est la honte, punaise, on n'a pas le droit, etc. Mais bon, je lui ai dit que l'Algérie allait gagner, alors qu'il y avait 1-0 très longtemps. Moi, je croyais quand même que l'Algérie pouvait retourner le truc, même si c'est.
Tu croyais Walid?
Oui, j'y croyais.
Ouais.
Et finalement, bon, ça va. Il était soulagé, mais quand même contenu, une joie contenue, parce qu'il attendait son burger qui est jamais arrivé.
C'est vrai.
Donc, ce qui était ça le vrai problème de la soirée.
Ouais, enfin, le vrai problème de la soirée, c'est que ouais, on a attendu jusqu'à 1h30 pour manger, quoi. Avec deux commandes Uber, une qui est pas arrivée quand même. Faut le raconter, ça. C'est-à-dire que quelqu'un a déposé une commande, mais on sait pas où.
Ah ouais. En bas
à l'hôtel. C'est-à-dire que pendant 10 minutes, on était avec Antoine Varnier.
Un coup de Daniel. Ça.
On a cherché la commande. Le mec.
Ah ça c'est un coup. C'est un coup de l'équipe.
Faut savoir que c'est des commandes à 100$ ici, hein, avec un burger et demi, t'es à 100$, donc c'est pas la même chose quand même qu'en France. Donc quand t'en loupes une, t'as quand même le mort.
Donc à côté de ça, Guiri, bon.
Oui, voilà. Non, mais ça c'était plutôt.
Non, mais il y avait même pas de réconfort. Il y avait pas le réconfort.
C'est pas la priorité. On a dû redescendre dans le hall pour acheter une salade.
Ah non, on était mené 1-0. On était mené 1-0 par la Jordanie et derrière, moi j'étais mené 100$. 100$ par Uber. C'est-à-dire que vraiment, ça fait. À ce moment-là, on est quand même.
C'est la double peine.
Ouais, là, c'est la double peine. C'est le carton rouge et c'est le pénalty.
On n'est pas dans le bénéfice.
Et après, derrière, on a recommandé, et je pense que en livraison prioritaire, parce que tu sais que tu rajoutes normalement 3-4 pour une livraison prioritaire, et en fait, on a dû commander, je pense, à minuit et demi, c'est arrivé à 1h50. Quoi.
C'est une livraison minoritaire.
Voilà. Il y a du trafic, à New York.
Exactement, beaucoup de trafic. Voilà. Mais c'est-à-dire que,
c'était bon au moins, c'était bon ou pas?
C'était
froid. Mais froid.
On a démarré la première commande à 22h50, c'est-à-dire on sortait du studio, d'accord? Et on a mangé 20 minutes après le match. C'est-à-dire que le débrief sur Fox Sports de Chicharito n'était pas terminé, qu'on n'avait pas encore la livraison.
T'as mangé des petits pois, Chicharito, avant de manger ton burger.
Exactement.
Donc là, sur le débrief de l'Algérie, on a trouvé le point Godwin de Walid, c'est il y a pire qu'une défaite de l'Algérie, il y a la bouffe.
Pas manger. En plus, tu sais, il y a une phrase de Kevin Diaz, vraiment depuis qu'on est arrivé, c'est
que
à chaque fois que Kevin Diaz mange, j'ai un savoir et tout, j'ai pas mangé de la journée. Et donc là pour le coup, j'avais vraiment pas mangé de la journée parce qu'en fait Kevin à chaque fois son troisième repas, t'es avec lui toute la journée et dès qu'il mange vraiment avec un vrai coup de fourchette et je lui dis "Ah, ça va et tout", il me fait "Ça va, tu manges et toi?" "Ah, ça va, j'ai pas mangé de la journée." C'est vraiment ça.
Et d'ailleurs, je viens de dire à Walid il y a 20 minutes, faim parce que
j'ai pas mangé de la journée.
Voilà.
Mais en fait, la journée, lui, c'est des journées. En fait, je pense que c'est des demi.
Non, c'est des jeûnes de 16 heures. Exact. Voilà, c'est des jeûnes de 16.
C'est comme les pauses fraîcheurs sur les 25 minutes. En fait, lui, c'est annulé. En fait, c'est le cooling break. Le eating break.
J'ai la ligne et tout.
Ouais, c'est très.
Faut faire attention. Il y a des jeûnes de 16.
La discipline.
Bon, sinon l'Algérie.
Oui. Que dire pour l'Algérie?
Est-ce que c'est le début de quelque chose, est-ce que pour l'instant, il n'y a rien qui démarre?
C'est le début de la fin.
C'est le début de quelque chose. On a évité l'humiliation. Faut appeler un chat un chat. C'est qu'on a encore un Petkovic qui s'est complètement trompé dans sa composition de départ. En enlevant Ben Taleb pour Zerouki, pour le remettre à la mi-temps, parce que Zerouki, a fait une passe meurtrière sur le premier but qui a amené le but de la Jordanie. Les changements n'ont pas été payants. Même si sur la première mi-temps, tu domines globalement, mais en transition, en fait, tu comprends pas l'idée directrice de Petkovic. Ça fait 2 ans qu'il est là et ça fait 2 ans qu'on dit qu'on ne comprend pas en fait la trame footballistique qui veut nous imposer. Il y a pas de progression, il y a pas de processus. C'est des changements d'hommes constants où on a finalement le même résultat à la fin. Heureusement qu'on a Ibrahim Maza qui à chaque fois qu'il a le ballon allume un peu la lumière, mais sinon c'est très très compliqué. Et il y a que les 3 points à retenir de ce match-là et le fait de ne pas rejoindre la Turquie et la Tunisie dans la honte dans le côté honteux de cette Coupe du Monde depuis le début de la compétition, parce que franchement terminer avec 0 point, parce que c'était le cas à la 70e minute hein, quand même 0 point contre la Jordanie et contre Léo Messi, pas contre l'Argentine mais contre Léo Messi comme ils le disent, être éliminé au bout de 2 matchs, ça aurait été mais dramatique pour l'Algérie. Voilà, faut féliciter quand même le semblant de réaction avec Ben Boali qui n'était pas prévu dans le synopsis, qui est un peu le Bounedjah 2.0, joueur qui a la dalle, qui a la détermination, qui peut être un point d'appui, qui a marqué sur un très beau corner de Riyad Mahrez, et derrière Guiri qui faisait pas un super match, qui a été opportuniste et qui a marqué ce but là de justesse avec un hors-jeu au millimètre. On va se satisfaire de ça. De toute façon, il faut aussi se faire une raison. On a un coach moyen voire très très faible.
Qui a re-signé avant la compétition.
Ouais, mais ça je l'ai déjà dit, ça, Gilbert, ne m'énerve pas sur ça.
Dis-nous ce que t'en penses. Dis-nous ce que t'en penses.
J'ai déjà dit, c'est le concept, c'est tu vas sur le bon coin, tu achètes une voiture, tu l'as pas encore vu. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que t'es pas encore rentré dans la voiture, t'as pas essayé en fait voir si la boîte auto marchait ou si les freins fonctionnaient. T'achètes en fait, tu donnes une prolongation à Petkovic qui s'est complètement vautré contre le Nigeria avant une compétition sans savoir.
Je dirais pire, Walid. Je pense qu'au contraire, tu as essayé la voiture, elle avait des problèmes et tu la reprends sans vérifier si les problèmes ont été, contrôlés parce qu'ils connaissent un peu la voiture.
C'est vrai, parce que c'est vrai que la voiture a déjà été,
essayée
et pour très très cher. Hein, parce que la voiture, elle est quand même. Moi, j'ai regardé, c'est le 11e salaire. C'est le 11e salaire de la Coupe du Monde. Petkovic, il prend quand même.
Et la bagnole en question, elle a quand même au moins 500 000 km.
Et puis,
la vieille Peugeot, là.
Et puis, tu l'as vu à Bordeaux, tu l'as vu à la Suisse.
C'est la vieille Peugeot du Bled.
Clairement, c'est-à-dire que c'est très très défaillant, mais bon, voilà, le clin d'œil de l'histoire, c'est que tu peux checker la main de l'Autriche comme en 82 pour faire un match nul.
Alors ça,
on s'arrange, un match nul, ça va tout le monde.
Alors ça, le balancier de l'histoire est extraordinaire.
Ah oui, c'est-à-dire que tu peux te serrer la main.
La RFA n'est plus là.
Ouais, tu peux serrer la main de l'Autriche et faire meilleur troisième. Et en plus, avec le meilleur troisième, si t'es meilleur troisième, en fait, tu ne rencontres pas l'Espagne, alors que l'Autriche peut rencontrer l'Espagne, va sûrement rencontrer l'Espagne en faisant deuxième, en allant chercher un premier qui serait peut-être soit l'Iran, l'Iran, l'Égypte, la Belgique, les USA ou le groupe du Canada et de la Suisse. Et donc tu peux te faire un 16e un peu kiffant face à une équipe qui peut, où tu seras pas favori, hein, mais où tu peux avoir un 16e plutôt abordable en disant peut-être pourquoi pas un 8e de finale.
Vous savez
c'est,
que dans
c'est la beauté de ce format.
Dans l'histoire des Coupes du Monde ou des Euros, quand deux équipes se rencontraient comme ça et qu'elles avaient besoin, je sais pas, d'un 0-0, d'un partout de truc, je sais pas pourquoi, comme par hasard, ça arrivait.
Oui, bah c'est une possibilité.
Si je suis l'Autriche,
par contre, je suis pas rassuré.
Si je suis l'Autriche et que je sais que je vais taper l'Espagne. Je suis pas sûr que
je vais pas faire exprès de perdre non plus.
Il est
2h34 du matin, t'es fatigué là.
Non mais s'il gagne. Non mais s'il gagne, ça change rien.
Il reste deuxième quand même.
Il reste deuxième.
Par contre, s'il perd le match, le problème de l'Autriche, c'est que s'ils perdent le match, ils peuvent ne pas être aussi meilleurs troisième. Parce qu'ils auront que 3 points.
Ils font un nul au moins.
Voilà, donc c'est ça en fait le problème pour les Autrichiens. Même si je pense qu'avec leur goal average, vu qu'ils ont ils ont zéro. Je pense qu'à zéro ou à moins un avec trois points, tu seras quand même meilleur troisième.
Après, tu sais, dans ces matchs, on sait comment ça se passe. Il peut pas y avoir d'arrangement normalement sur la totalité du match. Ça va être sur la fin du match
À l'heure de jeu. Si la machine est à l'heure de jeu, après c'est la dernière demi-heure. Mais en tout cas, pas rassuré.
Qu'est-ce qu'on dit du match de Mahrez qui était pas titulaire en premier match
Il a fait une première heure de jeu convenable. Et je pense que vu la hype qu'il y avait avec Hajj Moussa.
Avec Mahrez, t'as gagné.
Oui.
Et passe d'ess.
Non, il fait une passe d'ess et sur la première mi-temps, c'est lui le plus dangereux. Mais ça fait partie aussi de ces matchs menteurs où, comme avec Dembélé, comme avec Ronaldo, où Mahrez a quand même une qualité technique avec et le
permet de faire la diff contre la Jordanie.
Voilà, avec le rythme qu'il y a sur ce type de match-là, je suis pas sûr que si le niveau s'élève. Mais bon, Hajj Moussa n'a pas été grandiose quand il a démarré contre l'Argentine, donc je vois pas pourquoi. Faut un discours d'honnêteté et Mahrez a fait son match hier.
Ce qui m'inquiète, moi, en fait, évidemment, c'est la suite, parce que, moi, je dis, comme Walid vient de le dire, pour l'équipe de France aussi, t'as plein de matchs qui sont un peu des faux matchs, dont tu peux pas faire une analyse vraiment intéressante. Donc, l'Algérie, là, s'en sort. C'était vraiment mal embarqué. Enfin, elle s'en sort parce qu'elle a une chance de se qualifier, c'est déjà énorme. Mais en fait, derrière, les problèmes restent intacts. Et je vais prendre un point de vue qui est assez commun dans ces Coupes du Monde habituellement et qu'il faut observer là, c'est aussi ta défense et ton gardien. Parce qu'en fait, tu vas pas pouvoir aller loin, tu vas pouvoir te qualifier, même parfois avec un gardien moyen, une défense moyenne. Mais tu vas pas pouvoir aller loin avec des problèmes défensifs ou un gardien en souffrance. Moi, je pense que Lucas Zidane est un gardien moyen, même sur l'extérieur du pied hier du Jordanien. C'est un ballon que tu peux sortir.
Qui doit sortir.
Qui doit sortir. Ah, donc en fait.
Tu connais le club de Lucas Zidane?
Je pense pour la suite, en dehors de tous les sujets dont tu as parlé concernant déjà les compos de Petkovic, je pense déjà que à chaque fois, si sur une frappe un peu mid, un peu moyenne, tu peux prendre un but, c'est compliqué aussi pour tes joueurs offensifs. Enfin, ça veut dire que tu pars avec un but de retard. Donc c'est en ce sens que ces équipes là trop faible, avec trop d'endroits où tu ne sais pas et trop de faiblesses, et notamment à ce poste clé. Pour la suite, j'entends. Je ne parle pas pour la qualif.
Moi, je critique beaucoup Petkovic, mais ça reste quand même une équipe moyenne, très moyenne. Il y a deux, trois joueurs. Maza, c'est au-dessus du lot. Amine Gouiri, c'est décevant, mais par rapport à ce qu'il doit faire normalement, il doit te tirer.
Rappelons qu'Amoura est blessé.
Mais Amoura était décevant quand même dans la dynamique, mais il est blessé pendant 15 jours. T'as Moussa qui peut faire des choses, mais derrière t'as des joueurs comme Zerouki, c'est pas bon du tout. Belrali,
je préfère quand il est avec Rox. Rox Zerouki, c'est pas mal.
Ok, je suis pas la ref, mais
Moi j'aime bien.
Si, le dessin animé.
Ah, moi j'aime bien.
Ah, t'as pas connu.
Ah, Rogue, c'est Rookie.
Ah, bah, Rogue, c'est un Dalmatien,
voilà. Ok, c'est comme.
C'était un peu osé, mais.
Ouais, j'aime bien.
Ni avec les Aristochats.
J'aime bien, voilà. Parce que moi, j'avais les Aristochats, c'est avec le chien, etc. Mais, jingle légendaire. Pour revenir sur ce que je disais, voilà, c'est Rookie, c'est très faible. Ben Taleb n'est pas le Ben Taleb de ce qu'on voit à Lille. Encore une fois, la rentrée qu'il fait hier, beaucoup de passes latérales, beaucoup de safe passes. Derrière, c'est très lourd. Ben Sebaïni, Mandy sur les transitions. Heureusement que la Jordanie est pas extraordinaire, et que t'as beaucoup d'imprécisions parce que il y avait moyen d'aller mettre le deuxième sur la deuxième mi-temps. Tu l'as dit avec le gardien de but. Là, c'est Ben Boili qui vient te régler l'affaire, enfin te remettre dans le coup dans une fin de match qui sentait mauvais. Elle sentait mauvais cette fin de match. Voilà, tu vas prendre ton 16e de finale peut-être et puis on fera les comptes à la fin. Mais je pense qu'il y a un vrai état des lieux à faire sur le réel niveau de cette équipe.
Bon, rien à rajouter les gars sur l'Algérie. Non. Bon, donc on va pas se faire trop d'illusions sur la suite. Il y aura pas.
De toute façon, personne a dit qu'il allait avoir.
C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif de départ?
Sortir des poules. Bon. Mais par rapport au Maroc, à la Côte d'Ivoire ou même au Sénégal, on avait une équipe qui était inférieure sur la ligne de départ avant cette Coupe du Monde. Non, l'Égypte, ça pouvait matcher, mais l'Égypte fait un meilleur début de compétition que l'Algérie.
Dans un instant, le reste de l'actu du jour, plus le match
contre l'Iran, là, l'Égypte.
Ouais,
tout à fait.
Pas simple.
Ouais, mais ils ont 4 points.
Non, je sais bien. Mais tu vois, par exemple, on verra l'Iran comment.
Ouais. Enfin, l'Iran, ils jouent surtout leur qualif.
Bah oui, c'est ça.
Ouais.
Panama Croatie, où en est-on, Valentin?
81e minute de jeu et toujours 1-0 pour la Croatie face au Panama. Il y a un coup franc qui est vraiment très bien placé.
Hein. On va le suivre.
Pour les Croates, une fausse de Fajardo et Pazalic entre en jeu.
Lequel? Ah, l'autre, le bon.
Et l'autre est sorti. Et il a fait rentrer deux Soucic.
Oui, les cousins Soucic.
Alors, avec sa fête.
Il n'a pas Soucic.
Soucic et Luka Soucic qui, lui, joue à la Real Sociedad. Et sorti de Luka Modric, on en parlait en avant-match, c'était sa 200e sélection pour Luka Modric.
Wow. Le joueur. Il a fait un bon match.
Quand des déchets, hein. J'ai vu quelques passes ratées.
Il a été discret, il a perdu pas mal de ballons. D'ailleurs, sur un contre et sur une grosse occasion panaméenne, c'est lui qui se rate sur un coup franc joué court. Donc, il y a eu du déchet pour Luka Modric qui a 40 ans et qui dispute sa 5e Coupe du Monde. Petar Soucic au ballon. On est à 20 bons mètres, légèrement décalé sur le côté gauche. Il y a Baturina également avec son pied droit. Un mur de 5 joueurs panaméens. Baturina qui fait mine finalement. Soucic au-dessus du mur, c'est dévié par le mur. Ça filera en corner juste au-dessus de la cage de Mosquera. 1-0.
C'était donc un pétard mouillé.
Deuxième minute de jeu. Bravo Flo.
Dans un instant, le reste de l'actu du jour à la Coupe du Monde, on va parler de plein de choses. Et tiens, notamment, ça je ne l'ai pas vu venir, une association territoriale française qui veut remettre un rapport à la ministre des Sports, qui va le faire même pour que la France candidate à l'organisation de la Coupe du Monde 2038, figurez-vous. On en parle dans quelques instants, à tout de suite.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
2h42 du matin en France, 20h42 ici dans le studio new-yorkais de l'After. Walid Acherchour est là, Kevin Diaz est là, Julien Laurence toujours avec nous et Florent Gautreau. Florent Gautreau, bien sûr, qui ce soir restera également jusqu'à 5h du matin.
Pour
votre plus grand plaisir.
Marquage,
avec Walid.
Marquage à la culotte de Walid Acherchour.
Ah bon, vous êtes toujours ensemble?
Non, mais en ce moment, j'ai décidé. Le coach m'a dit maintenant marquage. Donc je marque.
De t'occuper de moi?
Ouais, je suis au marquage.
Ok.
Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire de faute.
Je suis dur à prendre.
Conseil avec Walid, il faut toujours marcher 10 mètres derrière lui parce qu'il laisse tomber des trucs.
Quoi.
Il laisse tomber des trucs.
Son accréditation, son badge,
voilà. Un burger. Il faut toujours ramasser. Tu vois, il y a toujours des trucs à ramasser derrière Walid.
Des dollars.
Pas tant que ça. C'est un peu dur en ce moment. Mais Gilbert, hier, m'a ramassé une tête de chargeur.
Voilà. Ah, heureusement que j'étais là.
Ouais, enfin, non, c'est pas la tête de chargeur. C'est le secteur. Et aux États-Unis, il y a un adaptateur. C'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont inventé les chargeurs et les iPhones, mais eux, ils ont un adaptateur en particulier. Je comprends pas, moi. Faut m'expliquer,
c'est
en fait.
La prise qui est pas la même.
Ouais, en fait, ils ont inventé toute la technologie, mais par contre, ils ont pas les mêmes adaptateurs que nous.
Tu t'as compris que tu t'adaptes à eux et pas l'inverse.
Ouais.
T'as compris qu'un Américain qui vient en France, il va dire comme toi. Ouais. Il va dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent les Français avec leur prise pourrie? J'ai pas la même.
Oui, d'accord, mais les chargeurs d'iPhone, c'est les mêmes.
Mais non!
Mais non!
deux, non, ça date de prise de chaque pays, toi aussi.
Ah, c'est
ça date de prise de chaque pays.
Tu vas sortir. Mais eux, leur.
Mais parce qu'ils ont des prises différentes, toi aussi.
C'est-à-dire quand tu vas à Apple aux États-Unis.
Bah oui, c'est pas. Bah oui, t'as pas le chargeur comme nous.
Et qui peut se charger dans la prise à eux.
Ah, mais moi, je pensais que c'était. Donc en fait, les mecs, dans tous les pays, il y a des chargeurs différents.
Juste pour la prise. Le reste, c'est la même chose.
Mais pas le chargeur, non, tu m'as dit, c'est la prise.
Eux, ils ont la prise pour leur chargeur à eux.
Oui, mais ils se compliquent la vie parce qu'ils
ont le chargeur pour leur prise.
C'est des produits. En fait, Steve Jobs, il a créé ça. Il a créé ça de manière
qui décide laisser ce qu'il y a aux États-Unis, toi aussi.
Tu sais que les prises de Samsung ici, oui, c'est des prises américaines aussi, c'est oui, pas des prises européennes.
Donc là, je suis un fou, moi. De ce que je suis en train de dire, c'est fou ce que je suis en train de dire.
Bah oui, complètement.
Ils se compliquent pas la vie, les mecs.
Regarde, les Américains, ils parlent une autre langue que la nôtre.
Oui.
Et ben, ils ont d'autres prises que les nôtres. Ils ont d'autres chargeurs.
Nos
chargeurs à nous, ils connaissent pas.
Le produit est
américain. Le produit, ils l'ont adapté pour la France, mais leur produit, c'est pas le même que le nôtre.
On confondait deux trucs, c'est que le lien qui va du chargeur.
Discussion Emmanuel
qui va du chargeur à la.
Mais ça, il avait compris.
Ça, c'est le partout pareil, c'est universel.
Okay. En revanche, si Wally est en Angleterre,
la prise qui est dans le mur,
panique.
La prise qui est dans le mur.
Le secteur s'appelle le secteur.
Le secteur, ouais, c'est différent. Et ça, c'est normal, c'est différent. Dans plusieurs pays, il y a d'autres endroits où c'est encore différent.
En Angleterre,
c'est encore différent.
Je comprends pas.
En Australie, en Inde.
Je comprends pas.
Dans plein de pays.
Tu comprends pas, t'es sérieux?
Je jure que je comprends pas.
Et d'ailleurs, tu as des chargeurs universels.
Mais c'est eux qui créent le truc. Pourquoi ils font pas un truc pour tout le monde?
Mais c'est pas eux qui ont créé le truc.
Ils sont différents.
Mais c'est pas eux qui ont mis les prises dans tous les pays du monde.
C'est pas Apple.
Et avoir le bout du cordon, bon, stop, tu ne peux pas avoir, vu qu'il y en a 16 dans le monde, différents, tu ne peux pas avoir.
Et pourquoi on n'a pas tous les mêmes prises?
Valentin Jamin, sauve tout! Panama-Croatie, merci. Ah non, mais incroyable. Ce débat est passionnant. Vous voulez vraiment parler de foot alors qu'on peut parler de prise, franchement.
Exactement.
87e minute de jeu.
C'est quoi la prise en Croatie?
Croate, je pense que Gilbert sera peut-être mieux que moi.
C'est en Europe, c'est à peu près partout pareil, sauf les Anglais. Sauf les Anglais qui font rien comme tout le monde.
On a trois.
D'ailleurs, je pensais peut-être en venant que j'aurais une chance d'avoir le bon adaptateur en ayant l'anglais.
Mais donc Valentin, maintenant on découvre en fait il y a des monnaies différentes dans les pays, mais il y a aussi des prises différentes dans tous les pays.
Bah oui,
je viens de découvrir ça.
Bienvenue dans la
droite, tu conduis à gauche.
Oui, d'accord.
En fait, mais Walid, en fait, quand Tesla, ils ont sorti la Tesla ou Chrysler, quand ils ont sorti des voitures, ils ont pas compris pourquoi ils avaient fait des voitures différentes. Par exemple, ici, il y a pas de diesel, par exemple. Tu savais? Ici, ça n'existe pas le diesel.
Je savais pas.
Ok, bon bah voilà.
Ah, d'accord.
Je te dis autre chose.
Je savais pas. Bah, je découvre.
Ou les Anglais, quand ils ont créé des voitures, tu sais, ils ont le volant, il est de l'autre côté.
Arrêtez, parce que je pense que si je reprends le langage Walid, cette capsule va cartonner. Pas au bénéfice de Walid.
Ouais, c'est pas
grave.
Au moins, on est sincère et on est là pour dire les choses.
T'as raison.
On dit les termes.
Et nous, on t'explique.
Jimmy Brown, qui est quelqu'un de très sympa, a dit je supprime ce passage du podcast.
Non, il peut laisser.
Donc Valentin, 0 pour la Croatie. 88e minute de jeu, le buteur c'est Boudimir, le joueur d'Osasuna à la 54e, il était entré à la pause, les Panaméens qui poussaient là en fin de partie, mais il y a des contres et des espaces, mais là le bon tacle, le bon retour de Barcenas me semble-t-il, en tout cas les deux milieux de terrain du Panama, Barcenas et Harvey, ont vraiment fait un bon match solide, il y a eu un seul changement d'ailleurs pour le moment, on a fait rentrer Waterman, l'avant-centre qui joue au Chili, donc on a quand même pas un banc.
Il a signé son contrat, il fait des stylos.
Énorme, 88e minute de jeu, toujours
Waterman,
un 0 pour les Croates.
Le gars qui ramène l'eau dans les restos.
Laisse les blagues à Florent.
Il joue avec Drinkwater, Waterman.
Bravo. Ouais.
Mieux. Il revient dans le game. Là, il est meilleur que sur les prises.
Celle-là, je l'ai vu, ton cerveau.
Vous allez me respecter dans cette émission.
Là, c'est Walidé.
T'es meilleur que sur les prises.
Ou bien avec Lucas Do.
C'est bon, ça. C'est pas mal, ça.
Très bon.
C'est parce que c'est Gilbert, on est obligé de dire ça.
Merci, les gars. Tout à l'heure, je vous racontais que Gianni Infantino allait remettre le trophée de la Coupe du Monde avec Donald Trump. Alors, il y a une petite punchline quand même, c'est que il y a un journaliste qui lui dit: mais attendez, quand vous dites ça, vous allez le remettre ensemble? Et Infantino, bah ouais. Il dit: bien sûr, vous savez, on est tout le temps ensemble, Trump et moi. Il est très fier d'être souvent avec Donald Trump.
Son meilleur copain, ouais. Son meilleur.
Gianni Infantino.
Bon. Une autre petite histoire sympa. Jude Bellingham a été élu joueur du match tout à l'heure pour l'Angleterre, bizarrement. Et quand on lui a remis le trophée, il a dit: bah non, je le mérite pas. Moi, je trouve que c'est bien que les joueurs soient honnêtes aussi.
Ça arrive.
Et qu'ils disent, je sais pas pourquoi j'ai ce trophée. J'ai pas été bon. Donc
ça devait être qui? Le gardien, peut-être, du Ghana?
Il a dit qu'un joueur du Ghana l'aurait
mérité.
C'est le fameux trophée sponsorisé par une marque de bière.
Bah, ça, c'est le grand truc.
Que les Français ont refusé de porter. Vous êtes au courant de cette histoire?
Michelob. Ah non, je connais pas ça.
Oui, apparemment, il y a une histoire, parce que comme c'est de l'alcool.
Ouais.
Ils ont dit qu'ils voulaient pas poser avec.
Mbappé, il a pas posé avec?
Avec ce trophée. Bah,
Mbappé, il l'a eu. Ok.
Il l'a eu. Il l'a eu hier.
J'ai vu une photo d'Mbappé.
Possible.
Valentin, oui.
Il y avait deux backdrops possibles. On peut.
Ah, le backdrop, c'est le visuel qui est derrière. Ouais,
qui est derrière. Et donc, un avec la marque de bière et un neutre. Et la France a choisi de poser devant le, voilà, le neutre. Donc, il n'y a pas la marque.
Il a le trophée, mais il n'a pas la marque derrière. D'accord.
Okay. Très bien. Ok. Bon, Kylian Mbappé, très bonne à cheval sur.
Le backdrop, la prochaine fois, tu.
L'exploitation de son image.
Traduit.
Ah non, il est bien, il est dans son élément, Coupe du Monde aux États-Unis. Exactement. Il est dans le backdrop.
Il est chez lui un peu.
Il est dans le catch-up, il est dans le.
Ça, changement de règle.
Et les Djamin, ils sont comme ça.
On va arriver en 16e de finale, et Rizier, les tirs au but. Vous savez que l'usage habituel pour les tirs au but, c'est qu'il y ait deux tirages au sort. Un premier, oui, tirage au sort pour savoir qui va tirer en premier.
Il s'est passé de quel côté à Budapest.
Et un tirage au sort pour savoir de quel côté on va.
Arsenal a perdu les deux. Tout à fait. À la finale.
Et ben justement.
Il y a deux toasts.
Les fameux toasts de Walid.
Les toasts de Walid avant l'apéro.
Du coup, c'est un croque monsieur, ouais. C'est,
ouais. Et ben, il n'aura plus qu'un, Walid. Ouais, désormais. Partir de. Maintenant, on va faire un seul tirage au sort.
Double toss.
Et là, on va dire à celui qui gagne le tirage au sort.
Choisis qu'un truc.
Une nouvelle règle de la FIFA, là. On va dire à celui qui gagne. OK, vous choisissez soit de tirer en premier, soit le côté.
Et figure-toi que ça, c'est le même toss que le début du match. Le début du match, tu dis, oui, vous choisissez soit le côté, soit le coup d'envoi.
Exactement.
Donc, effectivement, je trouve assez juste. Ouais, parce que sinon, tu peux perdre les deux.
Ça a plus de sens, effectivement.
Bon. Très bonne décision.
Choisis de tirer en premier.
Très bonne décision d'Infantino une nouvelle fois.
Mais donc, Arsenal avait perdu les deux.
Ouais,
les deux.
C'est pour ça qu'on s'était étonné qu'à la fois, il tire en deuxième, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Et à la fois, il se retrouve.
Maintenant, je vous pose la question. Parce qu'on se rend compte quand même que de tirer face au COP adverse, bon, c'est clairement un désavantage.
Tout à fait.
Voilà.
Par contre, commencer
de tirer en premier, c'est un avantage.
Voilà. Maintenant, tu gagnes. Tu choisis quoi?
Tu choisis
tirer en premier ou d'aller face aux copains de
Tirer en premier, tirer en premier.
Moi, je suis d'accord avec
toi. Tirer en premier.
De toute façon, toi, le directeur sportif, tu donnes des consignes, tu dis, tu vas tirer en premier, tu fermes ta bouche. Tu me poses pas la question
Ah non, mais c'est clair. Mais de toute façon, c'est un avantage indéniable de tirer en premier. C'est d'ailleurs dans les statistiques des séances de tir au but, puisque tu as l'avantage, que si tu rates, il y a toujours ton gardien qui peut te rattraper derrière. Donc, forcément, au niveau de la pression mentale pour le tireur, c'est toujours beaucoup mieux.
Voilà, ça faisait partie des préceptes coach Courbis pour les séances de tir au but. Parce qu'un jour, il a animé une séance de tir au but au Media Football Club avec Jean-Luc Tour dans les buts. Il nous a dit, je vous donne tous mes trucs, par contre, vous le répétez à personne.
Donc vous l'avez répété à tout le monde.
Je crois que tout le monde est au courant maintenant.
Ouais, à un moment.
Notamment le coup des gauchers en fin de série.
Ah oui, pourquoi?
Vous connaissez pas l'histoire?
Non.
En fait, Roland, il te dit, les gauchers, ils doivent tirer en cinquième ou en quatrième.
Sur un terrain en herbe.
Oui, sur un terrain en herbe. Pourquoi? Parce qu'en fait,
j'ai compris.
Le droitier, à force que tous les droitiers qui tirent, il y a un trou à l'endroit du pied d'appui.
C'est vrai.
Donc, le gaucher, lui, il va tirer de l'autre côté. Donc, il est tranquille, il peut. Voilà.
Ça, c'est très fort. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de terrains.
Après, il n'y a plus de trous. Hein. Après, il y a de pénalty sur les terrains où eux jouent, il n'y a pas de trous.
Ouais.
Et il y a aussi.
Autre truc de Roland, position du gardien. Il y a un gardien. Doit rester jusqu'à l'ultime seconde où l'arbitre lui dit d'aller sur sa ligne, doit rester sur la ligne des 6 mètres.
Ils le font beaucoup. Hein.
Pourquoi
intimidation. Ils prennent un prétexte.
Parce qu'en fait, c'est l'espace que tu occupes devant le tireur.
Les arbitres, sachant cela, les font reculer très vite, très tôt.
Mais
les mecs font un truc en disant attends, le ballon, il est bien, ils avancent un peu pour prétexter.
T'as plus le droit, mais il y a aussi autre chose, par exemple, c'est que, et c'est, je crois, Liverpool, Julien, qui avait fait ça en premier, je sais plus quelle séance de tir au but, c'est que pour moi, le gardien doit toujours aller chercher le ballon dans le but. Quand il a pris le but ou quand il est raté, il doit toujours le prendre pour l'amener au prochain tireur de son équipe, pour le laisser se concentrer et pour ne pas laisser Emiliano Martinez taper le ballon quand Tchouaméni doit aller le chercher très loin pour ensuite cogiter plus longtemps et rater son
pénalty. T'as vu que dans les pénaltys maintenant, là c'est pas dans les séances de tir au but, mais le tireur ne prend plus le ballon.
Oui. À chaque fois, il y a un sous-fifre.
Voilà, il y a un mec qui vient prendre le ballon, il le congèle.
Dans le match,
il le congèle.
Tout ça, c'est de la préparation.
Il le congèle et après, il le redonne.
Sauf Enciso à Strasbourg qui n'a pas compris. Qui lui est là pour congeler le ballon et qui en fait croit qu'il va tirer. Il croit qu'il va tirer. Et là, il dit non, mais en fait, toi, t'étais là pour congeler le ballon.
Non.
Et lui, dit non.
Après, Deschamps nous explique que c'est de la loterie, il était rebut. Donc,
alors, tiens, je regardais les stats sur l'équipe qui tire en premier. En fait, il y avait une étude ancienne qui disait que c'était 60-40, et en fait il y a des études récentes qui montrent que c'est beaucoup plus psychologique maintenant parce qu'on est à 51-49.
Ah, vraiment? Donc maintenant il faut choisir le COP.
Oui, mais alors maintenant il y a autre chose aussi qui a énormément changé sur les tirs au but, c'est la taille et donc l'allonge des gardiens. Aujourd'hui, un gardien comme Thibaut Courtois, mais comme aussi Donnarumma ou même Safonov, à partir du moment où les mecs font quasiment 2 mètres, s'ils choisissent le bon côté, mais t'as quasiment plus aucune chance de marquer. Ouais. Puisque, ou alors il faut vraiment envoyer un petit filet. Ouais. Mais aujourd'hui, avec le rallonge, ça change beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il y a cette fameuse stat que je répète souvent dans l'after, on me le ressort souvent, c'est qu'il y a les 3/3 du but. Et si tu veux marquer, il faut tirer dans le dernier tiers, c'est-à-dire le tiers haut. Alors oui, on peut me dire, ah oui, mais tu peux rater.
C'est plus risqué.
Mais si tu cadres, tu marques.
Stratégie Franck Leboeuf. Toute sa carrière, il a tiré fort sous la barre dans l'axe.
Ouais.
Dans l'axe.
Pas toujours dans l'axe.
Quasi toujours.
Il m'a dit que c'est un finaliste des Pays-Bas, je ne sais plus lequel de la.
Et en fait, c'est là que tu as le plus de chances de marquer.
Hein, Gilbert. Il m'avait dit un jour, parce que j'ai fait un sujet pour la revue de l'After sur les tirs au but. Mm-hmm. Et il m'avait dit, en fait, c'était très simple. Et je ne sais plus quel est le grand nom, Niskens ou autre, tu vois, de la finale 78, qui lui avait dit, moi je tire très fort en fermant les yeux, et ça voulait dire en gros, fermant les yeux, c'était exagéré, mais Leboeuf m'a dit, la puissance de la frappe, les joueurs oublient ça aujourd'hui,
bien sûr.
Alors qu'avec les gardiens, comme disait Kevin, déjà ça c'est d'une obligation, en dehors après, il décide de la placer.
Mais ce matin, on a fait une émission ensemble avec Franck, sur la télé américaine,
Ils ont ressorti
ces stats de tir au but. Et donc, il a raté que 4 tirs au but dans sa carrière.
Bien sûr, exceptionnel.
Sur 60, bon. 4, donc, ça fait 93%, un truc comme ça, ou 95%. Mais si lui, on a raté beaucoup plus. Mais si, il a 78% de réussite au tir au but. Moins que.
En fait, la fantaisie sur les tirs au but et les pénalties, c'est le début de la fin.
C'est suicidaire.
Et moi, Franck Leboeuf, je l'ai vu à Strasbourg des années. Il était dans l'axe du ballon. Il se mettait dans l'arc de cercle, dans la surface. Il partait, il prenait 5 pas d'élan à fond, il mettait une patate sous la barre, et voilà, terminé. Et il se faisait pas les trucs à la Neymar, les machins, et tout, et voilà.
Oui, après, je pense que Neymar, ce qu'il a instauré, c'est quand même extraordinaire.
Ouais, mais moralité.
Il a créé des monstres, en fait.
Il a créé des monstres.
C'est toujours le problème. Exactement. Il a créé des monstres pour les pénalties, pour le jeu.
C'est même le pénalty de Messi qui rate, il ralentit sa course,
bien sûr.
Il arrête sa course, sauf que dans les buts.
Messi, ce qui est dingue, c'est que c'est le GOAT. Footballistiquement, mais il a cette faille du penalty sur des penalties très importants dans sa carrière, parce qu'il avait raté contre Chelsea, il avait raté aussi au PSG contre le Real Madrid.
Exact.
Même son tir au but contre la France en finale 2022, il est pas dingue.
C'est fini.
Il est pas dingue. Et
à Toronto, victoire des Croates face aux Panaméens. Valentin.
1-0, but de Budimir à la 54e minute de jeu, victoire très précieuse, hein, puisque la Croatie se relance vraiment dans ce groupe. Ghana 4 points, Angleterre 4 points se partagent, on va dire, la tête. Et juste derrière, donc, les Croates sont là avec 3 points. C'est fini pour le Panama aussi dans cette compétition, qui ne pourra pas espérer finir 3e et qui est donc éliminé. Toujours pas de points marqués en deux Coupes du Monde pour les Panaméens. Et donc, la Croatie a gagné 1-0, but d'Ante Budimir.
Est-ce que vous savez quel est le pire joueur sur penalty? Des plus grands joueurs de cette Coupe du Monde. C'est le pire des pires, Julien, tu dois le connaître.
Quoi qu'à le ratio le plus faible.
Même, c'est le pire. Il tire tout le temps mal.
Attends. Enfin, c'est le pire.
Parce qu'il
selon,
en rate.
Non, c'est le pire selon Kevin Diaz.
Non, c'est le pire. Moi, c'est les deux.
Je pense que c'est Salah.
Ah, mais c'est Mo Salah. Mais Mo Salah, pour moi, c'est le pire tireur de tir au but qui tire les tirs au but.
Il a eu du mal ces dernières saisons.
Ça fait 4 ans qu'il me le dit. Mais le gros problème, c'est quoi? C'est que lui, en fait, comment il te l'annonce? En gros, c'est Opta-Jean, tu vois.
Ouais.
Il arrive,
Opta
il vient.
Kevin,
ouais, c'est Opta-Kevin. Vous savez, c'est celui qui a le pire ratio. Non, lui, c'est son impression à lui, tu vois.
Non, tu vois. Bah, regarde.
Non, mais après, c'est vrai qu'il rate à Bordeaux, il rate contre le PSG.
Après, il y a un truc.
Avec l'Egypte, il en a raté pas mal.
Sur l'histoire du tir au but de Neymar, t'as dit, il a enfanté des monstres, et t'as raison. Dans le sens, pour moi, c'est comme pour la relance courte avec des gardiens. Que si tu sais le faire, si tu le maîtrises, fais-le, il n'y a aucun problème, moi j'ai rien contre. Mais si tu ne sais pas bien le faire, ne le fais pas.
Ouais,
mais... et opte pour la technique Franck Leboeuf.
Ça, c'est le gros problème des réseaux sociaux, du copycat que veulent faire les joueurs, où il faut, même les joueurs au niveau amateur.
Copycat, backdrop.
Les mecs, ils veulent faire leur truc. Je pars sur le côté, je fais des pas, je regarde le gardien, et au moment de tirer, ils ne regardent même plus le gardien. C'est-à-dire qu'ils regardent le ballon au moment de tirer. Donc en fait, tout ça, c'est du cinéma. Choisis ton côté, frappe fort sous la barre et fais pas d'histoire.
Exactement. L'association Territoire Événements Sportifs va remettre cette semaine un rapport à la ministre des Sports Marina Ferrari pour que la France candidate soit à l'Euro 2036 ou à la Coupe du Monde 2038. Messieurs, dames. Donc,
La Coupe du Monde féminine aussi, l'a dit.
Non,
la
Coupe du Monde 2038, là je te parle de
l'Euro. Il y a aussi l'Euro et la Coupe du Monde féminine de 2000.
Ah, il y a aussi la Coupe du Monde 2033 féminine.
C'est ça, exactement.
La Coupe du Monde en France, ce serait monstrueux. Non,
je sais pas.
Non, t'es pas.
Ah, si, moi, je suis super chaud.
Connu,
moi,
t'as
quel âge, toi?
Moi, j'avais 4 ans. En plus, j'étais à Saint-Denis, moi. J'habitais à Saint-Denis.
Et alors?
C'était exceptionnel.
T'étais au stade?
Bah oui.
Nous, on a les stades pour 48 équipes, nous.
J'étais au stade.
Eh oui.
Non, pour 60. 4.
Non, pardon.
Non, 48, oui, on a.
Posez-vous la question des stades français. Parce que là, tu vois les stades ici, tu prends une claque dans la tronche quand même.
Ah bah oui.
Dans la tronche, ouais, pardon, parce que tu fais 7 heures d'antenne surtout. Ouais. La claque dans la tronche, elle est surtout là. Ouais. C'est qu'à un moment donné, tu dois faire triple pige. Elle est là, la claque dans la tronche.
Ça y est, il a craqué.
Il est parti. Mais il a pas mangé de la journée. Il a pas mangé de la journée.
Tu vas respecter la France à un moment donné, Gilbert ? On a des stades. On a Bollard, on a Geoffroy Guichard, on a le Parc OL, on a le Parc
des Vélos. Vas-y, continue la liste.
Le Vélodrome.
On a le Vélodrome.
Il y a combien de stades ici ?
Francis Lebasserre.
On a le Groupama Stadium.
16.
On a 16 stades, nous ?
Non, mais après, tu peux.
Pour recevoir la Coupe du Monde ?
On va avoir 12, par exemple.
Le Stade Chiron.
On a le Parc OL, on a le Groupama Stadium, on a le Parc OL.
On a le Stade Chiron.
On a le Groupama Stadium, on a le Parc OL.
On a le Matmut, on a le Parc OL, on a le Matmut, on a le Parc OL.
On a l'Orange Vélodrome.
Le MMA.
On a le MMA. On a ce stade Océane du Havre qui a été renommé aussi.
À la Méno. La Méno, pas la Strasbourg.
Oui.
À la Méno, évidemment.
Il y aura peu d'argent pour.
Blague à part, ça va être dur pour les stades, la capacité de passer après la Coupe du Monde aux États-Unis.
Pour tout le monde, de toute façon. Donc, pas que la France.
On aura le stade Bauer fini, peut-être à ce moment-là.
La Vallée du Cher. Ah oui, c'est sûr que le Brésil au stade Bauer, ça va être top.
Le Craven Cottage du 93, attention, il va falloir que ça climate, les Brésiliens, parce que là, c'est le vrai foot. Voilà. Là, c'est le vrai foot.
Les Brésiliens, ils vont arriver sur la rue, là, c'est par la rue. Là.
Bien évidemment,
directement dans le vestiaire.
Porte Saint-Ouen à côté des puces, ça, ils iront chercher une petite paire de jordans.
DTN, qui n'existe pas.
Exact.
Par contre, il faudrait qu'ils partent deux heures avant de l'hôtel.
Et le camp des Portugais à Chéron,
bien sûr.
Au stade
Paul Meyer, genre, Radio Alpha.
Et moi, je leur ouvre le stade Auguste Delaune de Saint-Denis, j'ai les clés. S'ils veulent s'entraîner.
C'est Yves Dumanoir.
Je leur allume la lumière, j'appelle mon pote Rachid, qui encore une fois a un jeu de ballon, et après, c'est Joga Pinto.
Faut qu'on fasse tout pour que ça arrive. Faut qu'on fasse tout pour avoir la Coupe du Monde.
Et là, ce sera l'apogée de l'after.
Le stade de Gérine, il peut accueillir
l'after
un match
dans une fusée. L'after dans une fusée après avoir fait l'after dans l'avion.
Dans un instant, la nuit de l'after continue. Merci les gars. Karine Galli arrive. Walid et Flo restent.
Salut à tous.
Allez, on va manger.
On est en grande forme.
On a mangé. On n'a pas mangé la journée.
Je vais pas manger la journée.
Allez, à demain et bonne nuit à tous.